information internationale, nationale et provinciale. Votre édition des 15 et 16 juin débute illico avec la revue de presse internationale. On va tout de suite se transporter dans le portail Les Échos, un journal financier et économique européen à l'adresse leséchos.fr. Incendie de Londres, le gouvernement mis en accusation. L'incendie qui a ravagé une tour HLM de la capitale britannique a fait au moins 17 morts. Un rapport sur la sécurité incendie avait été remis au gouvernement, qui est accusé de ne pas avoir suivi les recommandations. Theresa May a annoncé une enquête publique. Il faudra des jours, voire des semaines, pour obtenir un bilan définitif du terrible incendie qui a ravagé une tour HLM de Londres dans la nuit de mardi à mercredi, écrit le journal Les Échos dans cet article. Jeudi dans la soirée, 17 morts ont été recensés, mais les secours estiment que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé. Les médias britanniques évoquent plusieurs dizaines de décès dans la tour Grenfell, comme il était appelé, une information que les autorités se refusaient à confirmer. La première ministre Theresa May a annoncé une enquête publique pour faire la lumière sur cette tragédie. Elle a promis que les survivants évacués de l'immeuble seraient tous relogés à Londres. La question des responsabilités a été posée dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe. Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, s'est également rendu jeudi sur place pour rencontrer des secouristes bénévoles et a réclamé que toute la lumière soit faite. Dans les pages du quotidien La Tribune, un autre quotidien économique et financier européen, WannaCry, la cyberattaque mondiale attribuée à la Corée du Nord par la NSA. Le virus a affecté 300 000 ordinateurs dans 150 pays en l'espace de quelques jours seulement, écrit La Tribune dans cet article. Son but aurait été de rapporter des revenus au régime communiste de Pyongyang, selon l'agence gouvernementale américaine, la NSA. Des accusations que la Corée du Nord juge ridicules. La Corée du Nord aux manœuvres de WannaCry, c'est l'avis de l'Agence américaine d'interception des communications, la NSA. La dictature nord-coréenne aurait soutenu la cyberattaque mondiale réalisée en mai dernier, une attaque qui a touché près de 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Parmi ces ordinateurs, les systèmes informatiques d'hôpitaux britanniques, du constructeur automobile Renault ou encore la société américaine de livraison de colis FedEx. Objectif, dégager des revenus pour le régime de Pyongyang, la Corée du Nord, autrement dit, selon un rapport de la NSA qui a été distribué en interne et révélé cette semaine par le Washington Post. On reste encore quelques instants dans le quotidien La Tribune. Le flou sur un nouveau réaménagement de la dette grecque va persister. C'est par la journaliste Florence Autray. L'accord attendu cette semaine sur le versement d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce, une aide nécessaire pour éviter un défaut de paiement en juillet, se fera au prix d'une ambiguïté persistante sur la solvabilité à long terme de ce pays. Les ministres des Finances de la zone euro réunis cette semaine à Luxembourg en présence de la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde devaient, selon toute vraisemblance, donner leur feu vert au déboursement des 7 milliards d'euros dont le gouvernement Tsipras, le gouvernement grec du premier ministre Alexis Tsipras, a besoin pour rembourser la Banque centrale européenne en juillet. Vous trouverez cet article dans le quotidien La Tribune. On va du côté du portail indépendant Bastamag, à l'adresse Bastamag maintenant. Lutte contre la corruption, appropriation des biens communs, la révolution municipaliste qui vient. C'est par les journalistes Yvan Duroy, Nolwenn Weiler, Olivier Petitjean. 180 villes sans peur, comme on les appelle, se sont réunies à Barcelone ces 10 et 11 juin, écrit Bastamag. Des mégapoles, des villes moyennes ou modestes, bourgades, de tous les continents dont les élus et les citoyens engagés ambitionnent de construire une alternative de grande ampleur au péril xénophobe, à la menace terroriste et à la soumission aux marchés financiers mondiaux. La capitale catalane, Barcelone, dirigée depuis deux ans par une coalition coalition de mouvements sociaux et de partis politiques de gauche accueillait cette première rencontre. Réelle participation des citoyens, y compris des enfants, aux décisions, féminisation de la politique, gestion des biens communs comme l'eau, l'énergie ou le logement, lutte contre la corruption, accueil des réfugiés constituent la base des actions des communes réunies à Barcelone. Et on appelle ce mouvement le municipalisme dans cet article de Bastamag. Bienvenue à Barcelone, ville sans peur, lance devant une foule bigarrée Ada Colo, maire de la capitale catalane et ancienne activiste du droit au logement. Nous sommes mobilisés contre le terrorisme, contre le fascisme et pour les droits fondamentaux. Droit au logement, à la santé, à l'éducation, droit d'être accueilli quand on fuit son pays, a-t-elle déclaré. Vous trouverez cet article sur le portail bastamag.net. Je rappelle le titre, lutte contre la corruption, appropriation des biens communs, la révolution municipaliste qui vient. Et un petit peu plus bas sur le portail bastamag.net, accord sur le climat, une alliance de villes américaines défie Donald Trump. La résistance des villes américaines poursuit sa dynamique suite à l'annonce de Donald Trump le 1er juin de retirer les États-Unis de l'accord sur le climat signé à Paris fin 2015. Les gouverneurs démocrates des États de New York, de Californie et de Washington ont annoncé qu'ils formaient une alliance pour le climat. Ils s'engagent à atteindre l'objectif américain de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit de 26 à 28% en moins d'ici à 2025. Au total, 9 États américains ainsi que Porto Rico sont devenus membres de cette alliance. Des représentants de 10 États et du district de Columbia se sont par ailleurs engagés à suivre l'accord de Paris sans rejoindre officiellement cette alliance. Dans l'ensemble du pays, poursuit cet article de Bastamag, 298 villes et comtés ont signé le Programme national d'action climatique des maires, qui affirme leur engagement à réduire les émissions au niveau local. Le 6 juin, Hawaï est ainsi devenu le premier État à adopter une loi s'engageant à respecter les objectifs de l'accord de Paris, une dynamique appuyée par les mouvements sociaux américains. Il est temps de continuer à se mobiliser pour l'action climatique au niveau local et régional, dans le prolongement des efforts menés par les communautés en première ligne des crises climatiques et économiques, a écrit notamment l'organisme Grassroots Global Justice Alliance. Donc vous trouverez ce compte-rendu sur le portail bastamag.net. Je rappelle le titre, Accord sur le climat, une alliance de villes américaines défie Donald Trump. Le journal Le Monde nous annonce les premiers retours de réfugiés syriens qui étaient établis au Liban. Une cinquantaine de familles installées à la frontière libano-syrienne ont regagné leur village lors d'une opération organisée par le Hezbollah, rapporte le journal Le Monde. C'est par la journaliste Laure Stéphane. Dans les colonnes de Ouest-France à présent, Japon, adoption d'une loi antiterroriste malgré des craintes pour les libertés. Le bloc conservateur au pouvoir au Japon a fait passer ce jeudi à la Chambre haute du Parlement un texte de loi sur les conspirations en vue de commettre des actes terroristes et autres crimes graves, malgré les inquiétudes soulevées par le projet quant aux libertés civiques. Le Parlement japonais a adopté ce jeudi une loi contre la préparation en bande organisée d'attentats ou d'autres actes criminels qui suscitent de nombreuses protestations de citoyens et experts sur fond d'inquiétude pour les libertés individuelles. Le gouvernement japonais est passé outre les procédures législatives habituelles pour faire voter au plus vite le texte au Sénat japonais, 3 semaines après son adoption par la Chambre basse. Tout au long de la nuit, l'opposition a tenté de retarder l'échéance en déposant une motion de défiance contre le cabinet conservateur de Shinzo Abe et une motion de censure contre le ministre de la Justice Katsutoshi Kaneda. L'exécutif justifie une telle législation par des questions de sécurité à l'approche des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. L'exécutif y voit aussi un passage obligé pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, une convention signée en 2000 par le Japon. Ce texte permettra la mise en examen d'une personne ou d'un groupe de personnes pour participation à la préparation ou à la réalisation d'actes terroristes ou criminels. Mais les organisations de défense des droits, l'Ordre national des avocats et de nombreux universitaires estiment que son objectif peut être dévié afin d'autoriser des écoutes de citoyens innocents ou de restreindre des libertés pourtant garanties par la Constitution japonaise. Manifestation à Ankara, la capitale turque, contre l'incarcération d'un député du CHP. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Plusieurs milliers de manifestants turcs ont défilé jeudi dans les rues de la capitale Ankara pour protester contre la condamnation à une peine de 25 ans de prison rendue contre un député de l'opposition pour espionnage. La justice turque a condamné mercredi ce député, qui est un élu du Parti républicain du peuple, le CHP, qui représente l'opposition laïque. La justice l'a condamné donc pour avoir communiqué à un journal d'opposition une vidéo censée montrer des agents des services de renseignement turcs acheminant des armes en Syrie. Ce député du CHP est le premier à être emprisonné depuis que le gouvernement a lancé des purges massives après le coup d'État raté du 15 juillet 2016, rapporte l'agence Reuters dans cet article. Plus de 50 000 personnes, rappelle-t-on, ont été incarcérées et plus de 150 000 limogées ou suspendues depuis cette date par le dirigeant de la Turquie, Erdogan. Cherry Blossom, l'outil de la CIA pour pénétrer les points d'accès Wi-Fi. C'est par le journaliste Jérôme Ourdeau dans le portail Mediapart. Cherry Blossom est un dispositif permettant à la CIA d'infecter un routeur Wi-Fi pour ensuite disposer d'un accès total au trafic qui y transite. L'agence peut ensuite capturer l'ensemble du trafic ou cibler certains types de communications, certains utilisateurs ou encore mener d'autres attaques. WikiLeaks publie jeudi 15 juin une série de documents que Mediapart et La Repubblica, un journal italien, ont pu consulter. Une série de documents donc qui détaillent Cherry Blossom, un dispositif qui permet à la CIA d'infecter des points d'accès à l'Internet sans fil. Cherry Blossom, CB en abrégé, est en fait constitué d'une suite d'outils qui permet à un opérateur de la CIA de prendre le contrôle de points d'accès sans fil tels que ceux servant à se connecter en Wi-Fi dans une entreprise ou encore dans un bar, un aéroport, un hôtel. Une fois que Cherry Blossom est implanté dans l'appareil, la CIA peut, à distance et via une interface dédiée, donner toute une série d'ordres à celui-ci afin de surveiller tranquillement l'ensemble du trafic ou de cibler un ordinateur ou un type de communication en particulier. La première étape et la plus délicate est donc d'infecter le point d'accès à Internet. L'installation de Cherry Blossom se fait en effectuant une mise à jour du firmware, le logiciel de l'appareil. À cette occasion, la CIA doit installer une version modifiée, incluant son propre logiciel, sans que les utilisateurs ne remarquent le changement. Alors, vous trouverez cet article dans le portail indépendant Mediapart, Cherry Blossom, l'outil de la CIA pour pénétrer les points d'accès Wi-Fi. Sur le portail RFI, le portail de Radio France Internationale à l'adresse rfi.fr, un article peu flatteur sur Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump. Le calvaire des employés de la marque Ivanka Trump en Indonésie, c'est le titre de cet article signé par Joël Brunner. 15 jours après la disparition de 2 militants qui enquêtaient sur les conditions de travail dans une usine chinoise fabriquant des produits de la marque Ivanka Trump, c'est cette fois-ci en Indonésie, dans une usine de textile, que l'on retrouve le nom de la fille du président américain. Dans une enquête du quotidien britannique The Guardian, les ouvriers indonésiens dénoncent en effet des salaires parmi les plus bas en Asie et des objectifs de production irréalistes. L'usine textile, qui produit entre autres des vêtements Ivanka Trump, se trouve à Subang, sur l'île de Java, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Jakarta. Plus de 2700 ouvriers y sont employés et le trois quarts d'entre eux sont des femmes. Dans cette région, le salaire minimum légal est de l'ordre de 150 euros par mois, ce qui en fait l'un des plus bas en Indonésie. Alors, cet article parle des conditions de travail très dures dans ces usines où l'on fabrique des produits de la marque Ivanka Trump. L'article développe particulièrement sur le travail des femmes. Je vous incite à le consulter. C'est sur le portail rfi.fr, le calvaire des employés de la marque Ivanka Trump en Indonésie. Et finalement, un article un petit peu insolite, les PDG de Goldman Sachs et de Morgan Stanley dupés par un hacker. C'est un peu partout dans la presse mondiale, la presse financière notamment. Je vous lis quelques lignes de cet article qui paraît dans le fil de l'agence France-Presse, l'AFP. Les PDG des banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été dupés récemment par un hacker avec lequel ils ont échangé des courriels pensant discuter avec des proches, ont indiqué à l'AFP jeudi deux sources proches du dossier. Le hacker en question est un designer web qui vit à Manchester, en Grande-Bretagne. Il aurait également pu piéger Michael Corbat, PDG de Citigroup, un autre géant du secteur bancaire américain. Alors, ce hacker de haut vol s'est fait passer pour Alistair Darling, un ancien ministre des Finances britannique sous Gordon Brown il y a quelques années. Il a utilisé l'adresse alistair.darling@outlook.com pour échanger avec les dirigeants de ses banques. Et évidemment, les banques n'ont pas trop commenté sur ce faux pas. C'est assez embarrassant, c'est gênant. Le hacker, quant à lui, a déclaré que ses intentions n'étaient pas malveillantes, aucun secret n'a été volé, mais cela aurait pu facilement être le cas, a-t-il noté. Donc vous trouvez cette nouvelle dans le fil de l'AFP, les PDG de Goldman Sachs et de Morgan Stanley dupés par un hacker. Et c'est sur cette nouvelle que se referme la revue de presse internationale des 15 et 16 juin. Restez avec nous à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute du débrief édition des jeudis 15 juin et vendredi 16 juin. Nous allons passer immédiatement aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Et on débute dans les pages du journal Le Devoir, un article que signe Hélène Buzetti, la correspondante du Devoir à Ottawa. Le Sénat fait des propositions audacieuses pour réduire les délais judiciaires. Le système de justice canadien a besoin de super infirmières, écrit Hélène Buzetti dans cet article. Ou du moins de leur équivalent. Dans son volumineux rapport sur les moyens de réduire les délais judiciaires, le Sénat propose en effet que des agents autres que les juges s'acquittent de certaines tâches afin de permettre aux magistrats de se consacrer aux fonctions qui nécessitent vraiment leur savoir-faire. Le comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles s'est penché pendant 13 mois sur les délais dans l'administration de la justice canadienne. Il a entendu 138 témoins, dont des procureurs, des ministres et même 39 juges, la plupart à huis clos. Il propose 50 mesures, donc ce comité sénatorial, écrit Hélène Buzetti, propose 50 mesures pour accélérer la cadence et ainsi juguler les arrêts de procédure pour cause de délai démesuré. Ces arrêts, qui se multiplient ces jours-ci dans la foulée du jugement Jordan de la Cour suprême du Canada, plafonnant la durée des procédures, on se met la controverse. En effet, les procès avortés, finalement, suscitent bien des réactions dans la population, surtout quand il s'agit de crimes graves. 5 causes pour meurtre, écrit Hélène Buzetti dans cet article, dont 3 au Québec, ont ainsi été abandonnées pour ces raisons. L'une des recommandations des sénateurs invite les juges à ne plus accorder automatiquement les demandes très fréquentes d'ajournement des procédures qui ralentissent tout. Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a donné l'exemple d'une cause de viol à Saint-Jérôme qui a été remise 37 fois. La durée médiane des causes a été de 121 jours en 2014-2015, et ce, pour un nombre médian de passages devant un juge d'à peine 5. Les juges devraient faire preuve de prudence à l'égard des demandes libellées de manière générique et devraient insister pour recevoir des faits et des arguments détaillés avant d'accorder des ajournements, peut-on lire dans ce rapport. Alors, je vous laisse poursuivre la lecture de cet article sur les propositions audacieuses que fait le Sénat afin de réduire les délais judiciaires au Canada. C'est sous la plume d'Hélène Buzetti dans le journal Le Devoir. On va poursuivre cette revue de presse nationale dans le fil de l'agence France Presse. Banque de l'infrastructure, le Sénat pourrait faire obstacle au gouvernement. Le sort d'une mesure phare et controversée du gouvernement Trudeau repose entre les mains d'un Sénat désormais plus indépendant, écrit la presse canadienne. Le président de la Chambre haute devra décider si les sénateurs peuvent diviser le projet de loi budgétaire C-44 pour étudier la portion de la Banque de l'infrastructure séparément. George Furry a pris l'appel au règlement en délibéré mercredi soir. Le sénateur indépendant André Pratt a présenté une motion en ce sens plus tôt mercredi, une procédure rare qui pourrait retarder la création de ce nouvel organisme. Le sénateur estime que ses collègues doivent faire preuve de prudence et éviter d'adopter les dispositions sur la Banque de l'infrastructure de façon précipitée. La partie sur la Banque de l'infrastructure soulève de nombreuses questions et inquiétudes auxquelles nous n'avons pas eu de réponse, a expliqué le sénateur André Pratt en interview avec la presse canadienne. Et l'article indique qu'il s'agit d'un nouvel obstacle pour le gouvernement de Justin Trudeau qui souhaite adopter ce projet de loi omnibus dans son entièreté avant l'ajournement des travaux le 23 juin. Toujours dans le fil de la presse canadienne, Donald Trump veut nommer Kelly Knightcraft comme ambassadrice au Canada. La Maison-Blanche affirme que le président américain Donald Trump compte nommer Kelly Knightcraft comme nouvelle ambassadrice des États-Unis au Canada. Kelly Knightcraft est une grande donatrice politique et philanthrope ayant des liens personnels avec l'industrie du charbon et des relations professionnelles avec la Maison-Blanche et le Sénat américain. La femme originaire du Kentucky, poursuit cet article de la presse canadienne, avait été désignée par le président George W. Bush comme déléguée des États-Unis aux Nations Unies en 2007 et elle a aussi cofondé un organisme de bienfaisance pour fournir de la nourriture, un refuge et des vêtements à des enfants sri-lankais sans abri ou orphelins à la suite du tsunami dévastateur de 2004. Et cet article de la presse canadienne précise aussi que Kelly Knightcraft est la femme du milliardaire du charbon Joe Kraft, qui est considéré comme l'individu non élu le plus puissant de l'État du Kentucky aux États-Unis. C'était un détracteur des politiques environnementales de l'administration Obama et il a conduit un véhicule utilitaire sport comportant l'inscription « Amis du charbon, Friends of Coal » sur sa plaque d'immatriculation. Donc, on voit un peu le profil de cette ambassadrice que veut nommer Donald Trump. Vous aurez ça dans le fil de la presse canadienne. Revenons quelques instants dans les pages du journal Le Devoir. Ottawa confirme son investissement dans le projet de REM. C'est par le journaliste Alexandre Shields. Le gouvernement Trudeau a confirmé jeudi cette semaine qu'il injectera 1,28 milliard de dollars dans le réseau électrique métropolitain, le REM, le projet de train de la région de Montréal, piloté par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le premier ministre Justin Trudeau a ainsi annoncé que son gouvernement sera un partenaire de la Caisse de dépôt pour la réalisation de ce projet estimé à 5,5 milliards de dollars et qui comptera 27 stations le long d'un réseau de 67 kilomètres. Un peu plus loin dans le journal Le Devoir, cette fois dans la section Opinion, un texte signé par Robert Dutrisac. Intitulé « Une expertise toujours déficiente », ça concerne le ministère des Transports du Québec, un ministère qui a été la cible de toutes les critiques. Alors, ce texte parle d'un rapport récemment déposé par la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. Elle a dévoilé mercredi un rapport qui avait malheureusement un air de déjà-vu, écrit Robert Dutrisac dans cet article. Elle constate que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports demeure vulnérable devant les firmes externes. Ce ministère des Transports donc dépend fortement de leur expertise, principalement en génie, écrit le chroniqueur. Au grand dam du président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, le rapport apporte de l'eau au moulin des ingénieurs de l'État qui sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective. Il y a 18 mois, rappelle l'auteur, la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics pressait le gouvernement, et c'était sa recommandation numéro numéro 23, précise-t-il, d'accroître son expertise interne. La vérificatrice générale du Québec constate que les firmes externes en mènent toujours large au Québec et particulièrement au ministère des Transports du Québec. Elles ont obtenu 95% des mandats de conception des plans et devis et 94% des mandats de la surveillance de chantier. Les ingénieurs du ministère n'assumant qu'une part congrue des responsabilités, donc une toute petite part des responsabilités. Les contrats octroyés à ces firmes externes sont souvent trop chers payés et l'évaluation de leurs coûts n'est pas faite avec toute la rigueur nécessaire. Vous trouverez ce billet dans la section « Opinion » du journal Le Devoir. C'est sous la plume de Robert Dutrisac. Alors, Le Devoir a la part belle dans cette revue de presse nationale aujourd'hui. Restons encore un petit peu dans la section opinion du journal. Le Canada a besoin d'une stratégie à long terme pour garantir un accès équitable aux livres. C'est signé par Sarah Rouleau et Julie-Anne Roy. C'est une tribune. Elles sont gestionnaires seniors des programmes et services chez Inca Québec. Tout le monde a le droit de lire, écrivent-elles dans cette tribune, peu importe où nous habitons. Nous avons tous le droit de lire et de consulter de l'information pour nous sentir vraiment inclus dans notre collectivité, notre société et notre culture. Le problème réside dans le fait que le droit à la lecture n'est pas défendu de façon universelle. Plus de 3 millions de Canadiens, écrivent-elles, ne sont pas en mesure de lire les imprimés traditionnels en raison d'un handicap. Ces personnes comptent sur les médias substituts comme le braille, l'audio et le texte électronique accessibles pour être capables de lire des livres, des journaux et d'autres contenu publié. Mais seule une infime partie des livres publiés au Canada chaque année est offerte dans ces formats accessibles. Il est remarquable qu'Inca, l'Institut national canadien pour les aveugles, demeure le plus important producteur de livres accessibles au Canada depuis près d'un siècle, et ce, en dépit du fait qu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance. C'est un appel, ni plus ni moins, lancé à Ottawa afin que davantage de ressources soient consacrées à la publication d'ouvrages en braille et en livre audio. C'est signé par Sarah Rouleau et Julie-Anne Roy dans le journal Le Devoir. Le Canada a besoin d'une stratégie à long terme pour garantir un accès équitable aux livres. Retour dans le fil de la presse canadienne. Bien-être des enfants, le Canada fait mauvaise figure selon l'UNICEF. Le Canada se situe au 37e rang sur une liste de 41 pays riches relativement à l'accès suffisant pour les enfants à des aliments nutritifs et présente des taux supérieurs à la moyenne d'homicides infantiles et de suicides chez les adolescents, souligne un rapport de l'UNICEF. Plus de 22% des enfants canadiens vivent dans la pauvreté et la plupart des enjeux reliés aux enfants ne montrent aucune amélioration ou s'aggravent depuis une dizaine d'années, affirme le 14e rapport de l'UNICEF sur le bien-être des enfants dans les pays riches. Le rapport établit un classement des pays de l'Union européenne et de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, et situe le Canada au 25e rang dans l'ensemble concernant le bien-être des enfants. La Norvège se trouve au sommet de la liste de l'organisme onusien. Et cet article de la presse canadienne précise aussi que le Canada se situe au 29e rang sur 41 pays relativement au poids santé des enfants. L'armée canadienne a élargi son empreinte en Ukraine. C'est également dans le fil de la presse canadienne. L'armée canadienne a élargi discrètement son empreinte en Ukraine, donnant carte blanche aux commandants pour envoyer leurs soldats un peu partout dans le pays, sauf aux endroits où ils pourraient se heurter aux forces russes ou aux rebelles séparatistes. Le Canada avait d'abord déployé environ 200 soldats en Ukraine durant l'été 2015 pour aider à former les forces gouvernementales dans leur combat contre les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays. Toutefois, les soldats canadiens devaient demeurer dans la partie ouest de l'Ukraine, à l'écart du conflit qui continue de faire rage depuis 3 ans et qui a fait plus de 10 000 morts, précise la presse canadienne dans cet article. Et on va terminer avec un article que fait paraître le journal La Presse. C'est signé par le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot. Pas de taxes sur Internet pour financer les médias, dit la ministre Mélanie Joly. Le gouvernement Trudeau n'imposera pas une nouvelle taxe sur l'accès à Internet haute vitesse afin de financer les médias, comme le recommande un rapport d'un comité de députés fédéraux publié cette semaine. Nous n'introduirons pas de nouvelles taxes sur la distribution de l'Internet, a indiqué par écrit le cabinet de la ministre fédérale du patrimoine canadien, Mélanie Joly, qui rejette ainsi la principale recommandation du comité parlementaire. La ministre Joly annoncera cet automne une révision des mesures fédérales dans le milieu de la culture, mais une taxe sur l'accès Internet n'en fera pas partie. Le comité parlementaire qui a recommandé une taxe de 5% sur l'accès à Internet haute vitesse est composé à majorité de députés libéraux. 5 des 9 députés du comité sont en effet libéraux. Les 2 députés du NPD sur le comité étaient aussi en faveur d'une taxe de 5% sur l'accès Internet, mais pas les 3 députés du Parti conservateur du Canada qui ont produit un rapport dissident s'opposant à la création d'une telle taxe. Pour cette idée de taxe de 5%, le comité parlementaire s'est inspiré du modèle financier de la télé câblée au Canada, où 5% des revenus des distributeurs télé sont versés à des fonds de programmation ou à des télés communautaires. Le comité de la Chambre poursuit cet article, étudiait cette question des médias depuis plus d'un an. Après avoir entendu 131 témoins depuis février 2016, le comité a proposé 20 recommandations cette semaine dans un rapport final de 108 pages. On referme ici la revue de presse canadienne pour les 15 et 16 juin. Le débrief va se poursuivre dans quelques secondes. Restez à l'écoute. On revient avec la rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. Petit arrêt dans le portail TFO, le portail de la chaîne francophone ontarienne pour cette rubrique francophonie aujourd'hui pour l'édition des 15 et 16 juin. C'est un article que signe Benjamin Vachet. Jeu de la francophonie, les francophones hors Québec oubliés? Point d'interrogation. La Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF, dénonce la faible représentation des communautés francophones en milieu minoritaire au sein du volet culturel de l'équipe du Canada pour les 8e Jeux de la francophonie. Tous les 4 ans, ce sont près de 3000 jeunes athlètes et artistes issus des 84 États et gouvernements membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie qui se retrouvent pour les Jeux de la francophonie, rappelle Benjamin Vachet dans cet article. L'événement international est censé promouvoir la langue française et favoriser l'émergence de jeunes talents artistiques et sportifs francophones. Pour la prochaine édition, qui se tiendra du 21 au 30 juillet, à Abidjan, en Afrique, le Canada enverra 3 équipes pour le représenter. Une équipe pour le Québec, une équipe pour le Nouveau-Brunswick et une autre pour l'ensemble du Canada. Selon la FCCF, c'est dans cette dernière équipe, donc l'équipe qui représente l'ensemble du Canada, où le volet culturel est mal représenté et c'est là que le problème se situe, avec une francophonie minoritaire mal représentée, rapporte Benjamin Vachet dans cet article. Ce serait logique que dans l'équipe du Canada, on retrouve davantage de représentants du secteur culturel de toute la francophonie canadienne, fait valoir Martin Théberge, qui est président de cet organisme, la FCCF. Or, sur une liste de 12 participants, on trouve 9 artistes du Québec, alors qu'il existe aussi une équipe pour le Québec. On se demande si le Conseil des arts du Canada a fait l'effort d'aller chercher des candidats de toute la francophonie canadienne. C'est très dommage, a-t-il ajouté. Chapeauté par Patrimoine canadien, un processus de présélection géré par le Conseil des arts du Canada a permis de dresser une première liste de 32 noms, dont 12 candidats venaient de l'extérieur du Québec, sur un total historique de 281 candidatures venues de partout au Canada. En réponse à cette critique, le Conseil des arts du Canada assure ne pas avoir ménagé ses efforts pour joindre les communautés francophones de l'extérieur du Québec à l'aide d'entrevues dans les médias, de publicités, de présence sur les médias sociaux et de courriels personnalisés. Le Conseil des arts du Canada indique également avoir établi un contact personnel avec la FCCF, ses organismes membres, les conseils des arts provinciaux, régionaux et culturels pour assurer la transmission hors Québec de l'appel de candidature. Au final, 12 artistes ont été retenus par le Comité international des Jeux de la francophonie qui sélectionne lui-même la composition finale d'équipe Canada. Mais pour Martin Théberge, ce n'est pas suffisant comme explication. En se basant seulement sur l'excellence de leur performance et en mettant de côté leur identité franco-canadienne, dit-il, c'est donner une image tronquée de cette francophonie. Alors voilà, si vous voulez approfondir un petit peu, l'équipe Canada qui représentera le Canada aux Jeux de la Francophonie cet été en Afrique ne compterait pas suffisamment de membres issus de la francophonie hors Québec. Vous pourrez vous faire un avis sur la question en consultant l'article de Benjamin Vachet sur le portail TFO. Je rappelle le titre, Jeux de la Francophonie, les francophones hors Québec oubliés, point d'interrogation. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 15 et 16 juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. L'info se poursuit dans cette édition des 15 et 16 juin. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Voici votre revue de presse provinciale. On va débuter avec une nouvelle qui paraît dans le fil de la presse canadienne. Le Léviathan 2 a été renversé par une vague déferlante, selon le Bureau de la sécurité des transports. Le navire d'observation des baleines qui a coulé au large de Tofino à l'automne 2015 a été renversé par une grosse vague déferlante, a exposé cette semaine le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Le BST a formulé 3 recommandations dans la foulée de ce chavirement meurtrier, statuant notamment que les bateaux commerciaux transportant des passagers au-delà des eaux abritées, devraient être munis d'une radio-balise pour signaler leur position en cas d'urgence. Le bureau exige également que les exploitants de navires commerciaux adoptent un processus explicite de gestion de risque pour identifier des dangers tels que des vagues déferlantes. Le naufrage du Léviathan 2 avait fait 6 morts, 5 Britanniques et 1 Australien, le 25 octobre 2015 au large de Tofino, rappelle cet article de la presse canadienne. La plupart des passagers se trouvaient à bâbord, donc du côté gauche, du navire, ce qui a nui à la stabilité du navire lorsqu'il a été frappé de plein fouet par la vague. Le rapport souligne que 45 minutes se sont écoulées avant que les autorités de recherche et de sauvetage soient informées de l'incident, puisque l'équipage n'a pas eu le temps de lancer un appel de détresse. C'est par hasard qu'une fusée éclairante a été trouvée puis projetée, ce qui a alerté des pêcheurs de la Première Nation à Oussa, a indiqué le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Selon l'enquêteur Clinton Ribeiro, la formation des vagues déferlantes est presque impossible à prévoir. Celle qui s'est abattue sur le Léviathan 2 s'élevait à la hauteur du pont supérieur de l'embarcation. Dans des documents déposés l'an dernier dans le cadre d'une poursuite intentée par des survivants, le propriétaire du Léviathan 2 avait décrit la tragédie comme un acte de Dieu. Le site TVA Nouvelles traite également de cette nouvelle suite au dévoilement du rapport du Bureau de la sécurité des transports. Tous les navires devraient être munis d'une radio-balise. C'est le titre de cet article qui paraît sur le site TVA Nouvelles et qui est repris également dans les colonnes de l'agence QMI. On apprend par ailleurs dans le média Vancouver, qui est un média indépendant de Vancouver, que la ville de Vancouver a adopté un salaire de subsistance qui s'élève à $20.62. La municipalité va dépenser plus de $600,000 par année, apprend-on, pour mettre en place ce salaire de subsistance au sein de son appareil municipal. Donc, ce qui veut dire essentiellement que les concierges, par exemple, les employés de soutien, les employés d'entretien de la ville de Vancouver vont être payés au montant de $20.62 de l'heure, ce que Vancouver considère comme un salaire correct de subsistance dans cette ville où le coût de la vie est très élevé. Je vous signale une nomination importante. Gabrielle F. Fortin, nommée nouvelle directrice générale de l'organisme Le Français pour l'Avenir. Suivant une recherche nationale, Le Français pour l'Avenir souligne la nomination de Gabrielle F. Fortin à titre de directrice générale. Gabrielle F. Fortin est entrée en fonction le 12 juin et dirige les opérations de l'organisme à partir du bureau de Toronto sous la direction du conseil d'administration. Gabrielle F. Fortin possède plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'immigration francophone. Elle a travaillé au sein de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, occupé les fonctions de présidente et directrice générale d'Avis Immigration et siège à titre d'administratrice sur le conseil d'administration du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Elle est diplômée de l'Université Laval et détient un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. « Je suis une passionnée de culture francophone », a déclaré la nouvelle directrice. « Je souhaite apporter toute mon expertise pour renforcer l'intérêt des jeunes envers le français et le bilinguisme des langues officielles au niveau national. » Donc Le Français pour l'Avenir qui a une nouvelle directrice depuis quelques jours, elle s'appelle Gabrielle F. Fortin. Retour dans le fil de la presse canadienne, méthamphétamine, arrestation aux frontières dans l'ouest des États-Unis. Un automobiliste âgé de 40 ans en provenance de la Colombie-Britannique a été arrêté samedi à un poste frontalier de l'État de Washington car il transportait plus de 24 kg de méthamphétamine, MDMA si vous voulez, un puissant stimulant chimique. Dans un communiqué publié mercredi, l'agence américaine des douanes explique que vers 11h30 samedi, L'homme a déclaré à un douanier du poste de Blaine qu'avec son passager âgé de 33 ans, il voulait se rendre aux États-Unis pour le plaisir. Le douanier a ordonné une inspection du véhicule qui les transportait. Les 7 paquets contenant de la drogue ont ensuite été trouvés. Le conducteur a été arrêté, mais son identité et son lieu de résidence n'ont pas été divulgués. Dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, nous avons un article sur l'accès difficile au logement dans la grande région de Vancouver, des locataires de New Westminster à la porte pour cause de rénovation. Des dizaines de locataires à faible revenu devront quitter leur immeuble de New Westminster en Colombie-Britannique d'ici la fin du mois de juillet. Le propriétaire de l'édifice affirme que le temps est venu pour des rénovations. Le phénomène des rénovictions, des expulsions motivées ou justifié par le besoin d'apporter des rénovations, se répand dans le Grand Vancouver comme une épidémie, rapporte Radio-Canada dans cet article. À Vancouver et Burnaby, des mouvements de protestation se forment depuis des années. La députée provinciale pour la circonscription de New Westminster, Judy Darcy, a constaté l'ampleur du problème, poursuit cet article, surtout lorsqu'il s'agit des bâtiments construits dans les années 60 et 70, comme celui où vivent les locataires de cet immeuble. Judy Darcy dit entendre des rumeurs circuler sur ses résidences à loyer modéré et comprend qu'il y ait un climat de grande incertitude parmi les locataires. Vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. L'Alberta, notre voisine, se dote d'une politique de service en français. L'Alberta reconnaît désormais officiellement l'apport de sa population francophone et adopte une politique pour augmenter les services en français. C'est un texte signé par Laurent Pirot. C'est un tournant pour les Albertains d'expression française, a assuré le ministre chargé des Affaires francophones, Ricardo Miranda, lors de la présentation de la politique en matière de francophonie. Le texte se donne comme objectif de fournir en français plus de services du gouvernement et que leur qualité et leur accessibilité soient comparables à ce qui se fait en anglais. Concrètement, les différents ministères devront évaluer les services qu'ils offrent déjà et ceux qui devront être créés pour répondre aux besoins établis par les discussions entre la province et les francophones. La communication du gouvernement se fera aussi plus souvent en français. Le gouvernement albertain a également décidé d'ajouter le drapeau franco-albertain à la liste des emblèmes provinciaux. Un conseil consultatif sera chargé d'orienter la mise en œuvre de cette politique. Donc voilà une bonne nouvelle qui nous arrive d'Alberta. L'Alberta se dote d'une politique de service en français. On se déplace à l'autre bout du pays, dans les colonnes du média L'Acadie Nouvelle, au Nouveau-Brunswick. Un accueil chaleureux pour la fin de la Grande Traversée. C'est par la journaliste Béatrice Seymour. Vous allez voir, il y a un lien avec la Colombie-Britannique. La Grande Traversée, c'est une initiative de Colombie-Britannique. La Grande Traversée, qui regroupe des élèves francophones du secondaire à vélo, s'est rendue jusqu'au Nouveau-Brunswick pour la première fois de son histoire, un clin d'œil pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. L'événement de 5 semaines s'est achevé mercredi après-midi à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Cette initiative, mise en place en 2013, relève du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Les jeunes de la 8e à la 12e année se relaient en bicyclette par section, environ 300 km par section, tous les 3 jours. Nous avons de 250 à 300 cyclistes par année qui, pour la plupart, n'ont jamais fait de vélo de route en peloton, a expliqué Laurent Brisebois, le fondateur du projet, qui est évidemment britanno-colombien. C'est une occasion pour les jeunes de rencontrer leur père, de se créer un réseau et de découvrir le Canada et la francophonie à travers l'activité physique et le leadership qu'ils doivent développer. Chaque matin, les jeunes donnaient une conférence dans les écoles en partageant leur expérience. Le départ a eu lieu cette année le 8 mai à Victoria. Le Nouveau-Brunswick fermait le périple, une première, d'Edmundston à Bathurst. Une vingtaine de jeunes y ont pris part. Et cet article donne la parole au jeune Maxime Terrien de Nanaimo. On nous dit qu'il tenait à faire la première et la dernière portion de l'expédition pour sa deuxième participation à la Grande Traversée. C'est un privilège de pouvoir faire la dernière section parce qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est vraiment très excitant, a-t-il commenté. On trouve cet article, je le rappelle, sur le portail d'Acadie Nouvelle et le titre « Un accueil chaleureux pour la fin de la Grande Traversée ». Voilà qui complète le tour d'horizon des nouvelles provinciales de Colombie-Britannique. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on se penche sur la météo des prochains jours. C'est ici que s'arrête cette édition des 15 et 16 juin du débrief. Votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci d'avoir suivi cette heure d'information à l'antenne de votre radio communautaire francophone préférée dans la grande région de Victoria. Un petit coup d'œil à la météo avant de se laisser. On a actuellement 15 degrés si vous nous écoutez en fin de journée le 15 juin. Et pour vendredi 16 juin, ce sera un mélange de soleil et de nuages, prévoit Environnement Canada sur son portail météo.gc.ca. 19 degrés donc, mélange soleil-nuages et une probabilité d'averse de 30%. Pour le week-end, ça s'améliore grandement. Samedi 17 juin, du soleil, aucun nuage avec un maximum de 19 degrés. Ça demeurera dégagé en soirée. Et pour le dimanche 18 juin, c'est une journée généralement ensoleillée. Quelques petits passages nuageux très mineurs indiquent le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca. Et le beau temps devrait se poursuivre lundi 19 juin, ainsi que mardi et mercredi 20 et 21 juin pour le solstice d'été. Alors c'est sur ces prédictions encourageantes qu'on se laisse. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
CILS FM 107,9, à la source de la culture francophone et de l'actualité communautaire à Victoria.
Bonjour.
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 Je m'appelle Tiva et on fait partie des nouveaux reporters.
Écoutez les nouveaux reporters sur CILS FM, l'émission réalisée par les étudiants des écoles francophones et d'immersion de la Colombie-Britannique, avec leur coup de cœur.
Pourquoi aimes-tu les Blue Jays de Toronto si tu vis en Colombie-Britannique?
Et des interviews.
Tu parlais à propos des manques de volontaires. Que fais-tu pour dépasser ces obstacles?
Très très bonne question.
Les nouveaux reporters, c'est vendredi et samedi à 18h sur CILS FM 107,9.
La voilà la jolie branche, branchis, branchons, branchons le vin. La voilà la jolie branche au vin, de branche en feuille. La voilà la jolie feuille, 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 feuillons le vin. La voilà la jolie feuille au vin, de feuille en grappe. La voilà la jolie grappe, grappi, grappons, grappons le vin. La voilà la jolie grappe au vin. De grappe en cuve, la voilà la jolie cuve, 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 cuvons le vin, la voilà.
voilà la jolie cube au vin, le cube en presse. La voilà la jolie presse, 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 on le vin. La voilà la jolie presse au vin, de presse en tonne. La voilà la jolie tonne, 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 on le vin. La voilà la jolie tonne au vin, de tonne en cave. La voilà la jolie cave, 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 on le vin. La voilà la jolie cave au vin. La voilà la jolie cruche, cruchy, cruchot, cruchon, le vin. La voilà la jolie cruche au vin, de cruche en coupe. La voilà la jolie coupe, coupi, coupant, coupon, le vin. La voilà la jolie coupe au vin, de coupe en bouche. La voilà la jolie bouche, bouchy, bouchant, bouchon, le vin. La voilà la jolie bouche au vin, de bouche en tête. La voilà la jolie tête, 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 on le vin. La voilà la jolie tête au vin. Dididam, 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 dididam.
Au téléphone de la dynamite qui détonne, tu prends la fuite, les mots peuvent perdre de leur sens. L'amour ne connaît pas la mort. Un soupir, un silence qui laisse rien à dire qu'une distance qui blesse. Les peaux peuvent perdre de leur transe. L'amour ne connaît pas la mort. Je regarde plus derrière moi, j'avance et ouvre grand les bras. Mes fardeaux deviennent des plumes, je fais des ailes de mes enclumes, change plomb en or. Des ailes de mes enclumes.
cette descente en canot sur la rivière. Y a pas de nuage, il fait beau, un vrai sanctuaire. Petit feu pour nous éclairer ce soir. Nous nous gardons dans les yeux comme un miroir. Peu de mots est nécessaire pour se comprendre. Nous avions une idée de ce qui nous attend. Ça faisait longtemps qu'on pouvait sentir. Il y a deux combattants qui voulaient rester l'autre s'enfuir. Avec un lâcher prise, la sage Marie s'est montrée. Et comme une douce brise, elle m'a fait